Josée, merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Ben moi aussi, ça me fait vraiment plaisir, Josée, parce que l'automne dernier, vous nous avez offert la première partie de l'histoire de l'inconnu du presbytère. On conclut cette histoire-là maintenant, qui est inspirée d'une partie de l'histoire de John Harrison Surratt Jr., qui était complice de l'assassinat du président américain Abraham Lincoln. Tout d'abord, moi, je me demandais, pour ceux et celles qui ne le savent pas, là, qui était John Surratt?
Alors, John Surratt était nécessairement un homme, un Américain de 1865, donc on est à la fin de la guerre de sécession. Il est avec sa mère, sa mère qui est veuve, il est propriétaire d'une auberge. Une auberge où est-ce que la plupart des conspirationnistes, dont John Wilkes Booth, celui qui a assassiné Abraham Lincoln, se réunissaient. Donc lui, il avait comme rôle de... C'était un maître de poste. Donc lui, ce qu'il avait comme rôle, c'était vraiment de transférer des documents secrets ou des messages secrets à différents groupes ou cellules des confédérés. Mais... il faut bien préciser qu'au départ, les 12 conspirationnistes n'avaient aucune idée. Le plan de base des conspirationnistes était d'enlever et de séquestrer Abraham Lincoln. Edward, je ne me souviens plus trop le nom du vice-président. Donc, c'était les trois têtes dirigeantes. Ils devaient les enlever, les séquestrer, un peu comme à la manière des Felkistes, ils ont fait avec M. Laporte et James.
Oui, oui, oui. Ça a marqué le Québec, tout ça, là.
Ah oui, oui, c'est ça. Et lui, son rôle, c'était vraiment de transférer, d'émettre les différents documents qu'on lui proposait de donner aux confédérés. Et ce qui est arrivé, c'est que John Wilkes Booth, qui était un comédien, un homme très adulé à l'époque, c'était un des plus bels hommes d'Amérique qu'on disait, c'était un comédien très connu. Lui, il y a une folie qui s'est emparée de lui et il a décidé de tuer Abraham Lincoln sans nécessairement en parler aux autres conspirateurs. Mais ce qui est arrivé, c'est que John Surratt était au courant, la mère aussi était au courant, mais lui, il a senti un peu la soupe chaude et peut-être deux jours avant, parce qu'on parle du 14 avril, je pense, 14 avril, l'assassinat. C'est déjà un peu loin, hein, parce que moi, je suis déjà sur une autre saga historique.
Oui, ça va vite, vos histoires.
Je suis plus dans le même... lui, il sentant un peu le conflit s'envenimer, il a décidé de quitter Baltimore pour s'enfuir. C'était vraiment intuitif de sa part, il a quitté. Et donc, lorsqu'il est dans le train, entre Baltimore et Saint-Alban, il s'aperçoit que dans les journaux, son nom est inscrit. Il n'y a pas de photo, par contre, mais sa tête est mise à prix à 25 000 $ à l'époque, en 1865.
C'était beaucoup quand même.
C'était énorme.
Ouais.
Alors, il apprend, en même temps que pas mal tout le monde, que John Wilkes Booth a assassiné le président Lincoln en lui tirant une balle dans la nuque au théâtre Ford à Washington. Alors là, lui, à Saint-Alban, parce que lui, sa direction, c'était à Montréal, parce qu'il savait, pour avoir envoyé des lettres de poste et tout ça, qu'il y avait une diaspora des confédérés qui était à Montréal. Alors, il y avait un colonel Sanders, il y avait aussi Saunders, il y avait un monsieur Thompson. Donc, ces gens-là, ils voulaient aller les rejoindre à Montréal pour se sentir vraiment plus en sécurité. Mais c'était un gars aussi qui en avait marre un petit peu d'être reclus dans son petit village américain. Il aimait voyager, il rêvait de voyager. Alors, à Saint-Alban, lorsque dans le wagon de restaurant où est-ce qu'il est assis avec des gens autour de la table, il s'aperçoit que quelqu'un est en train de lire le journal et que son nom, il voit tout ça. Alors là, il décide de quitter. Il débarque à la gare de Saint-Alban et là, il décide de marcher. Et là... C'est là qu'il va faire la connaissance d'Honorine. C'est là qu'il entre dans notre zone internationale québécoise et il va aller se cacher dans un petit village parce qu'il y avait aussi, les confédérés avaient une espèce de réseau où est-ce qu'on pouvait se cacher et c'était toujours d'avoir asile dans les communautés religieuses, dans les presbytères et tout ça. Ça marchait encore un peu comme dans le temps de la... Lorsqu'on va en France, on voit que les cathédrales et tout ça, c'était vraiment des lieux d'asile, un peu comme Notre-Dame de Paris, là, l'histoire du bossu de Notre-Dame. Alors, on se retrouve donc avec John Surratt, un personnage qui ne paye pas de mine, finalement. Il a l'air de rien. Il a l'air d'un voyageur qui et qui va nécessairement se rendre à pied. Aujourd'hui, on a avec le chemin Roxham des gens qui traversent la frontière. Oui. Donc, moi, je trouvais que c'était un lien qui était quand même intéressant.
Bien, quand même. Mais c'est ça, c'est que là, John Surratt, on comprend, bien, on l'a dit d'entrée de jeu, que c'est une histoire qui est vraie. Mais vous, vous avez romancé cette histoire-là pour en faire la vôtre un peu. Vous êtes inspiré de l'arrivée de John Surratt dans le Québec. Mais moi, ce que je me demandais, c'est comment vous est venue l'idée de vous inspirer de ce personnage-là, parce que on s'entend que ça ne nous vient pas à l'idée naturellement comme tel. Là, vous parlez du chemin Roxham, qui peut être une prémisse, mais encore...
Mais la prémisse vient davantage du fait que j'ai fait énormément de rencontres dans les écoles, dans les bibliothèques, et j'incitais les jeunes, surtout dans les, on parle de 5e, 6e année, ou même au secondaire, de rechercher dans leur petit village, par exemple, s'il n'y avait pas une histoire, s'il n'était pas arrivé un événement un peu spécial, historique, parce qu'on me disait, moi, je suis de la Montérégie, je demeure à Saint-Hyacinthe, et vous le savez, il y a tout plein de petits villages aussi autour de Sorel-Tracy, tout ça. On parle de Saint-Denis, les Patriotes, on parle de... Mais quand on se retrouve dans la petite campagne Saint-Simon, Saint-Jude, Saint-Hugues, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors là, je disais... Bien, si vous fouillez un peu, vous allez vous apercevoir qu'il est arrivé des choses. Et à Saint-Liboire, parce qu'on pense souvent que l'histoire s'écrit dans les grandes villes. C'est souvent ce qu'on nous montre. Mais dans les petits villages, à l'époque, il s'en est passé des trucs, ne serait-ce que si on pense à Dunham, par exemple, pas loin de Stanbridge et puis de Freelichburg. Bon, bien, il y avait des Irlandais qui essayaient de traverser, donc on les appelait les Fenians. Ils essayaient de venir chercher des otages pour que au Québec pour que demander une rançon ou entre autres d'échanger des prisonniers qui étaient en Irlande. Alors c'était des Irlandais et ils étaient bloqués par un groupe de citoyens qui s'appelait les Écharpes Rouges. Oui. Il y a eu aussi dans ce coin-là, il y a eu du faux monnayage. On parle souvent des bootleggers puis de l'alcool qui circulait dans le coin des cantons de l'Est. Alors la meilleure place pour se cacher, c'est quand même un petit village à l'époque. Alors, je me suis mise à vérifier pour donner crédibilité à mes dires à ces jeunes-là.
Oui, vous avez fait ce que vous disiez à vos jeunes, finalement.
Oui, donc j'ai regardé, puis là, ben il y a des archives à Saint-Hyacinthe dans lesquelles j'ai fouillé, et c'était amusant, ou même à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, par Internet, on peut trouver plein d'événements qui sont arrivés. Alors, je me suis aperçue qu'à Saint-Liboire, c'était caché un des hommes les plus recherchés au monde en 1865-66. Alors ça, tu te dis, moi, Saint-Liboire, ma fille demeure là, à Saint-Liboire. On pense toujours que ça n'est jamais rien passé. C'est comme à Saint-Simon, qui est un autre petit village encore plus petit que Saint-Liboire, parce que c'était pas un village qu'on appelait les agents de comté. Ben, il y avait un avion pendant la Deuxième Guerre, un avion américain, qui a pris feu en plein vol, puis qui a atterri finalement en arrachant le toit de grange, puis il a atterri quasiment devant le perron d'une maison de ferme, et puis c'est les fermiers puis les gens des alentours qui ont sauvé les 25.
Ah oui! Il y a une histoire encore là à écrire!
Ah, il y en aurait un autre, mais peut-être là. Alors vous dites, oui, j'ai romancé, mais finalement, j'ai pas tant... Moi, j'aime pas romancer quand c'est un personnage véridique.
Oui. Alors, la ligne est mince,
Ah, la ligne est mince. Alors, John Surratt, j'avais quand même assez de matériel, parce que c'est ça qu'il faut aussi. J'avais assez de matière pour être capable de faire deux tomes. Il y a quelqu'un dans Arte, il y a une dame qui a fait une critique, qui disait, « Ah, l'épilogue est peut-être un peu long, j'aurais aimé ça avoir un troisième tome. » Mais il ne faut pas non plus étirer la sauce. Bref, donc, il y a un schéma narratif obligatoire de par la chronologie historique. On n'a pas le choix. Donc ça, je travaille toujours en deux parallèles, si vous voulez. J'ai le schéma de l'histoire que je dois conserver, que je veux garder authentique, véridique et dans la chronologie, pas faire d'anachronisme. Alors John Surratt, il a son histoire et je suis exactement ce qui est arrivé. Il vit les mêmes choses. Je lui donne des émotions, je lui donne des paroles, mais il ne faut pas oublier que c'est un homme qui se cache. Donc c'est un personnage qui est pas très loquace, assez discret. Mais j'ai le schéma actentiel que je brode autour de ça. Un schéma actentiel, c'est vraiment la façon de prendre des personnages et de les faire évoluer dans un décor donné, dans une temporalité donnée.
Oui, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, donc il y a quelque chose en plein milieu rural aussi qu'on peut étoffer autour du personnage, j'imagine.
C'est ça. Donc, il y a le personnage qui est dans le schéma narratif historique authentique. mais j'aime toujours aussi parler des femmes.
Oui.
De la situation des femmes. Donc, j'ai donc ajouté, ça, c'est un format un peu différent que j'ai fait dans celui-là, à savoir que j'ai des histoires parallèles. Donc, j'ai, par exemple, un chapitre qui parle de John Surratt et l'autre chapitre suivant, on va parler d'Honorine Bergeron.
Exact.
Honorine Bergeron, donc, c'est mon personnage très fictif. Elle, ce que j'aime avec elle, c'est que même s'il est fictif, je peux établir des données historiques ou des éléments historiques crédibles en rapport avec la situation des femmes en 1866, alors qu'on a établi, on a remis à la page le code napoléonien qui remettait la femme en soumission au mari, au fils, au père, tout ça, alors qu'en 1865, elle avait des libertés. Sauf qu'Honorine Bergeron, elle a un statut particulier, elle est veuve. Et ça, c'est un statut qui est un peu entre deux chaises à l'époque, à savoir qu'elle n'est pas, soumise à personne d'autre, elle a le droit d'avoir des héritages, elle a le droit d'avoir des possessions terriennes, mais c'est les autorités religieuses qui poussaient fort sur les femmes
exact.
pour qu'elles se marient. Et il y avait aussi l'attrait pour, entre autres, un des personnages de Donatien Rompré, qui est son voisin, d'acquérir une terre. Parce que aussitôt qu'une femme se mariait avec un homme et qu'elle avait une possession,
ça venait à l'homme.
Oui, ça devenait. Puis elle était. Alors moi, j'aimais installer cette fiction-là. Ça, c'est de la vraie fiction.
Exactement. Donc, on se retrouve avec deux romans. On conclut un peu à l'histoire, l'histoire un peu de John Surratt et aussi là, de Honorine et tout ce qui entoure. Mais moi, ce que je me demandais aussi, parce qu'on en a parlé beaucoup, tu sais, les auteurs de romans historiques sont des gens curieux, un peu comme vous, où vous aimez faire des recherches pour écrire vos histoires. Mais moi, ce que je me demandais, parce que on en a parlé, puis vous connaissez vraiment là, John Surratt et tout le fin fond de vos histoires et aussi de ce qui se passait en milieu rural à la fin du 19e siècle. On parle de la condition des femmes et tout ça. Qu'est-ce que ça prend comme recherche pour monter une histoire comme celle-ci-là, plus particulièrement, ça ressemble à quoi?
Tout d'abord, chacun doit avoir sa façon de fonctionner en tant qu'auteur, là, mais moi, je prends une période. D'abord, je m'inscris, moi, j'arrête dans ma tête, là, c'est de telle date à telle date. Il y a le personnage qui est incitatif, mais si le personnage, pendant qu'il est en action ou qu'il est dans le schéma narratif, il se passe rien au niveau de faits divers, d'anecdotes, ou à ce moment-là, je lâche un peu. J'ai besoin vraiment d'avoir du bagout, de la matière là, pour être capable. Mais j'arrête davantage, je me dis, je vais écrire un roman qui va se passer de telle date à telle date. Et à l'intérieur de ça, de cette période-là, là, je vais faire mes recherches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1865, où on élabore un peu, parce que dans le fond, 5 ans avant, s'il y a eu une loi qui a été votée, ça va jouer, ça va avoir une influence sur nécessairement une conséquence sur la vie des personnages. Alors, je fais mes recherches sur à peu près 5 à 10 ans. Et à l'intérieur de ça, je vois qu'est-ce qui progresse, qu'est-ce qui régresse et tout ça. Et je peux, à ce moment-là, faire évoluer. C'est comme un peu des marionnettes dans une espèce de décor.
Oui. Mais c'est fascinant quand même.
Oui, c'est ça. Mais on s'aperçoit aussi que pendant ces années-là, entre autres, dans toute la Montérégie, il y a eu une vague d'apostasie, c'est-à-dire que la plupart des catholiques ont décidé d'aller du côté de la religion anglicane qui était proche parce qu'on pouvait communier tout ça, là, qu'il y avait à peu près des protocoles ou des...
Bien, on l'a connu, nous, dans la région de Sorel-Tracy. On a encore l'église anglicane dans la région. Sorel-Tracy s'est appelée William Henry également. Là,
voyez-vous, ça
il y aurait une autre histoire à faire là.
Ah, mais à Sorel, il y a beaucoup de belles histoires. Hein,
exactement.
Parce que à Sorel, là, j'ai un copain qui a fait une exposition, un opus, un concert sculptural à Sorel, justement, là, à la maison en bas, là, pas loin du... Et on s'apercevait que pourquoi Sorel a été installé avec toute la marine, là, mais c'est parce qu'on voulait bloquer le trafic des armes à l'époque.
Exactement, exactement. Vous connaissez alors, bien ça, votre histoire, là, vous pourriez quasiment être historienne.
À chaque fois, j'ai enseigné l'histoire longtemps.
OK, c'est ça.
Oui, mais je trouvais que l'histoire de France, l'histoire d'Égypte, écoute, on savait tout là-dedans, mais notre histoire à nous, on la connaissait peu.
Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'en 2023, on commence à perdre un peu ça, donc D'autant plus que c'est le fun que vous mettiez de l'avant un peu des parts de notre histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise en fouillant sur le sujet? Parce que oui, vous avez fouillé ici et là, mais il y a des choses qui doivent vous avoir surprise.
Ben moi, ce qui m'a surprise, c'est d'ailleurs d'abord et avant tout le personnage de John Surratt, parce que c'était un homme qui savait se déguisait.
OK.
Et puis, tu sais, dans un petit village comme Saint-Émilie-Boire, on dit on peut se cacher. Et puis, c'était pas un vrai presbytère. Là. On parle d'une maison qui avait été louée et que le prêtre avait reçu des subventions, on ne sait pas trop par qui. Non, mais, et puis, il avait installé une espèce de petit appentis derrière. Tu sais, tu as le mur où est-ce que tu as le poêle qui était à côté là, le poêle à bois. Puis, donc, il avait fait un petit appentis, un petit cagibi. Et il y avait un trou dans le mur, donc c'était le poêle chauffait autant la cache de John Surratt. C'est, tous ces petits détails-là, là, moi, ça, je trouve ça assez...
Ça vous a fasciné.
Ah, moi, j'aime ça. J'aime vraiment les petites anecdotes. Puis, ne serait-ce qu'on parle de l'apostasie, puis comment, par exemple, les cultures essayaient de se mixer, parce qu'on parle des Anglicans, on parle aussi de d'autres façons de fonctionner. Il y avait aussi toutes les œuvres caritatives que les Anglicans faisaient, que les catholiques ne faisaient pas.
Mm-hmm.
Non, moi, j'aime fouiller. Dans le fond, c'est un peu du voyeurisme. C'est comme si je m'installais devant une fenêtre et puis qu'on on faisait un voyage dans le temps, mais que je m'y implique pas. Là, je suis une témoin invisible, finalement.
Ouais.
Mais c'est amusant. Moi, j'aime trouver la petite anecdote, le détail qui va faire que ça va donner une ampleur plus importante. Tu vois, quand j'ai écrit dans Le secret des voûtes,
oui.
qui parlait d'un trésor polonais qui avait été caché au monastère des Augustines, mais pendant la guerre, et que Maurice Duplessis a jamais voulu remettre ça aux communistes parce qu'il était anticommuniste. Alors, à cause de lui, même si on l'a décrié souvent, bon, ben, les Polonais ont conservé leur trésor.
C'est vrai.
Hein? Alors, dans le fond, c'est de jeter un coup d'œil sur cette histoire-là qu'on nous a enseignée peut-être d'une façon un petit peu plus, carrée, et de regarder les sous-titres, finalement, de regarder tout ce qui est sous-jacent.
Exactement. Donc, L'inconnu du presbytère, là, on a les deux tombes de l'histoire. On le rappelle, on se retrouve à la fin du 19e siècle avec un personnage qu'on va aimer découvrir et d'autres personnages autour aussi avec plein d'histoires. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs retiennent en refermant le deuxième tombe de l'histoire?
Qu'ils ont appris beaucoup de choses
au
niveau historique. Oui. Moi, j'ai toujours un petit peu la déformation dans l'enseignante d'histoire et de français qui a fait un tricotage serré de deux laines de couleurs différentes. Là. Mais je me souviens aussi quand j'ai commencé à écrire, j'ai une soixantaine de romans, mais j'écris beaucoup pour les jeunes avant. Et j'ai toujours, on a mis de l'avant à partir de 1998, je pense, un roman historique qui s'appelait Le Moussaillon de la Grande Hermine, chez Urtubise à l'époque. Et on se disait, les jeunes n'aimeront pas ça parce que les jeunes aimaient davantage tout ce qui sortait de la courte échelle, les romans miroirs et tout ça. Et finalement, ça a pris une ampleur qu'on ne pensait pas, même que L'Élan Vert, une maison d'édition française, avait acheté des droits pour en publier là-bas. Alors, le roman historique, moi, ce que je trouve, c'est que oui, ça distrait, ça divertit, en même temps que ça nous apprend des choses sur notre histoire. Et ça, les jeunes en avaient besoin parce que ma fille même, qui était en cinquième année ou primaire, elle disait « C'est plate, l'histoire, j'haïs ça. » Et puis là, ben, on essayait de voir comment on pouvait changer le cours des choses. Donc, je me suis donné peut-être une mission un peu pédagogique là-dedans.
Et vous avez réussi parce que vous avez un magnifique parcours en tant qu'autrice. Vous êtes reconnue, appréciée du grand public québécois, du moins aussi, mais j'imagine que ça rayonne tout ça aussi. Et là, votre prochaine série, parce que là, je ne veux pas trop en parler parce qu'on va profiter de L'inconnu du presbytère, là, c'est sorti tout ça, mais vous l'avez dit un peu plus tôt, vous êtes dans une autre histoire qui va se dérouler, si j'ai bien lu, à Montréal pendant les années 40. Est-ce qu'il y a un thème que vous voulez aborder en particulier? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Puis est-ce que je peux vous demander ça déjà?
Ah oui, ben je peux déjà vous mettre un petit peu, faire la mise en place, la mise en scène. Alors, ça se passe au laboratoire. C'est un laboratoire secret qui est installé pendant les années 40-45 à Montréal. Et des scientifiques d'un peu partout où sont venus travailler, mais des scientifiques à Montréal. Donc, Churchill voulant éviter que les scientifiques soient pris en otage par Hitler et que la montée à l'armement nucléaire se fasse du côté des Allemands. Alors, il y a eu deux projets Trouble Eyes, qui était le projet anglais mené par Churchill, et il y a eu le projet Manhattan mené par les Américains. Ces deux projets-là ont fusionné pour donner pour faire en sorte que plusieurs scientifiques ont travaillé sur l'arme nucléaire. Cependant, les scientifiques qui étaient à Montréal ne savaient pas que ce serait pour une bombe atomique.
Oui.
Alors, on a ici à Montréal élaboré dans les années 40 la fission nucléaire. On parle aujourd'hui de la fusion nucléaire qui se fait, qui est une nouvelle façon de... La fission nucléaire, ça s'est développé à Montréal. Et parmi tout ça, toujours ma femme, la condition féminine.
Exact, parce qu'en 1940 aussi, là, il y a des enjeux.
Il y a des enjeux. Et là, ben, j'ai même lu dernièrement que Ottawa avait décrété une possibilité de conscription pour les femmes qui travaillaient dans les usines.
Oui, oui.
On n'en a jamais parlé de ça, là. Mais les femmes étaient réquisitionnées pour l'effort de guerre.
Exact.
Dans des usines d'explosifs et tout ça.
En tout cas, on a connu ça dans la région de Sorel-Tracy aussi.
Ah oui, voyez-vous? Puis à Belleuil, avec la CIL et tout ça. Hein?
Oui.
Il y en avait. C'était une des plus grosses compagnies là, d'explosifs et de bombes, de fabrication de bombes. Alors moi, ça va se passer entre Saint-Hilaire et Montréal, cette nouvelle saga-là, parce que j'ai une jeune femme qui va devenir une calculatrice. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur et les femmes qui devaient toutes vérifier les mathématiques, les calculs, les physiciens, les chimistes, c'était des femmes. On engageait des femmes parce qu'on disait qu'elles étaient beaucoup plus précises au niveau mathématique. Alors, lorsqu'on regarde dans les livres d'histoire et qu'on cherche des noms de ces calculatrices-là, on en trouve 2 sur 40.
Quand même.
Alors, les femmes ont encore été un peu oubliées là-dedans. Alors, il y a eu un film qui est sorti, Les figures de l'ombre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les femmes là, qui étaient...
Non, mais j'en ai entendu parler. Exact. Bon.
Alors, moi, ça va être une jeune pensionnaire qui a fait son pensionnat pour devenir enseignante et tout ça, mais qui va se retrouver finalement, à un moment donné, à être calculatrice avec tout ce qu'on a entendu parler, qu'il y avait eu des espions qui étaient venus, etc. On parle d'espions russes. Alors, c'est là-dedans un petit peu qu'on va jouer. Alors, ça va se passer entre 1940 et 1945 au laboratoire secret de Montréal, à l'Université de Montréal.
Bien, on a bien hâte de découvrir cette nouvelle histoire-là. Ça va être sur plus d'un livre, j'imagine.
Ça va être 3 tomes, celui-là.
3 tomes. Mais là, on va profiter de l'inconnu du presbytère. On a Les temps maudits, le jeu du hasard avec John Surratt, entre autres, une partie de notre histoire. J'ai envie de vous dire merci, Josée, pour toutes ces belles histoires que vous nous offrez année après année, si je peux dire ça comme ça. Là.
Ben,
on vous suit avec grand intérêt.
Bien, c'est égoïstement mon premier plaisir de tout faire ça avant. Si ça plaît aux gens, mais tant mieux. Puis merci de me lire beaucoup. C'est très encourageant.
Bien, merci à vous. Merci pour tout le temps accordé. On a fait une belle jasette. On a jasé ensemble de tout ce qui est... C'est rare, c'est précieux, des jasettes comme ça. Et vos livres sont publiés chez Urtubise, évidemment.
Bien, merci à vous.